Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble pendant deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions. Avec vous, évidemment, les auditeurs au 3210. C'est d'abord notre journal avec à la une la mise en examen de l'ancien directeur du musée du Louvre. Il est soupçonné de trafic d'antiquités égyptiennes. L'association des petites villes de France monte au créneau pour alerter la ministre de la Santé. La situation critique des hôpitaux fait courir un grave danger à la population. Et puis nous irons rejoindre notre envoyé spécial au Texas deux jours après la tuerie dans une école primaire. Juste après, comme chaque jour, vous le savez, on échange, on décrypte, on débat sur deux sujets. Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, ne veut pas employer les mots naufrage et catastrophe pour décrire la situation actuelle à l'hôpital, car dit-elle, ils sont très anxieux. Eh bien, nous serons avec Jeanne Fadlala, médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle nous dira quels sont les bons mots à employer selon elle pour décrire son quotidien. Être indulgent avec les petits excès de vitesse, éviter de faire sauter un point, ce sera notre deuxième débat et c'est également la question qui vous est posée sur rtl.fr. Permis de conduire, faut-il arrêter de retirer un point pour les petits excès de vitesse? Vous dites oui à 81%, non à 19%. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
On devrait avoir un peu plus d'éclaircies cet après-midi.
Oui, entre les frontières du Nord, la région centrale, le massif central, les nuages vont se morceler au fil des heures. Ça reste tout de même plus nuageux sur le Nord-Ouest, couvert dans le Sud-Ouest. Et quelques averses localement orageuses entre les Alpes et la Corse, des averses qui pourront déborder cet après-midi vers les Bouches-du-Rhône. Et c'est bien ensoleillé entre le Languedoc-Roussillon, le Lyonnais, en remontant vers le Jura, le tout sous des températures en légère hausse, globalement comprises entre 18 et 25 degrés et jusqu'à 30, même 31 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Vous nous écoutez peut-être en voiture si vous faites partie des chanceux qui font le pont, qui partent pour ce long week-end de l'Ascension. Attention, encore une journée classée rouge hein, dans le sens des départs par bison futé. Embouteillage que l'on oublie vite, il faut le dire, quand on arrive à destination. Exemple à Lens en Vercors, en Isère, le camping familial de Bois-Ciju redémarre sa saison. Il offre une centaine d'emplacements, tentes, camping-cars et mobil-home. La plupart ont été très très vite réservés, Bertrand Frachon.
Michel, le propriétaire du camping, est très occupé ce matin. Il faut remettre la piscine en marche et accueillir tous ces amoureux de moyenne montagne qui viennent faire le pont ici.
Oui, bien sûr, avec le beau temps, automatiquement, et un grand week-end, les gens arrivent. Ben, c'est beaucoup des sportifs qui viennent, de toute façon, c'est le vélo, le VTT qui prend de plus en plus, le vélo de route, les parapentes, il y a une école de parapente qui fonctionne très bien, de la montgolfière aussi, la randonnée, il y a des randonnées qui sont magnifiques sur le plateau, là.
Amélie fait partie de ces touristes qui viennent de poser leurs valises au camping.
On est arrivé là aujourd'hui, en fait, mes beaux-parents viennent très souvent, enfin toutes les années, donc on vient avec les enfants, voilà, pour s'amuser, pour faire de la randonnée, on va aller faire de la luge pas très loin là.
Il n'y a pas de neige.
Non, mais c'est de la luge sur rail et c'est vraiment génial.
Mylène, quant à elle, possède depuis 25 ans un bungalow dans ce camping, toujours sous le charme de ce massif.
Parce qu'ici, il y a une énergie particulière, il y a une beauté qu'on ne trouve pas, même dans le sud Isère. Quoi. C'est le Vercors, a une verdure très particulière et moi, ça me plaît beaucoup.
Et tous ces vacanciers ont de la chance, la météo pour ce week-end s'annonce excellente.
Un reportage de Bertrand Frachon pour RTL. Un trafic d'antiquités égyptiennes a-t-il été organisé au cœur du musée du Louvre? L'ancien directeur, en tout cas du musée parisien, vient d'être mis en examen pour blanchiment et escroquerie, Anne Le Hénaff.
Oui, Jean-Luc Martinez est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur la provenance de plusieurs antiquités, notamment sur une stèle en granit rose portant le sceau du pharaon Toutankhamon. Stèle achetée plusieurs millions d'euros par le Louvre à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis et à l'origine douteuse. Les policiers français enquêtent en fait depuis près de 4 ans sur un réseau soupçonné de se livrer à ce trafic qui porterait sur des centaines d'objets et des dizaines de millions d'euros avec des experts, des marchands d'art qui auraient peut-être en tout tout cas c'est ce dont on les accuse, produit des faux documents pour blanchir des objets venant de pillages anciens. Ce qui est cocasse, si l'on peut dire, c'est que Jean-Luc Martinez a remis un rapport à François Hollande il y a quelques années sur la protection du patrimoine, dans lequel il explique en fait le procédé. Les techniques sont bien connues, les pièces sont vendues à un antiquaire qui les revend à un autre, puis à un autre, pour brouiller les pistes. Il faut fabriquer un faux pédigree à l'objet concerné et les trafiquants peuvent tout inventer, jusqu'à fabriquer des faux documents de notaire pour crédibiliser le mensonge.
Merci pour ces précisions, Anne Le Hénave du service police-justice de RTL. Les suites de cette affaire qu'RTL vous a révélé, la mise en examen de Jacques Boutier, le patron d'Assu 2000, pour viol sur mineur et traite d'êtres humains, entre autres. Guillaume Chiez, vous avez pu vous entretenir avec la propriétaire de l'appartement dans lequel l'une des victimes dit avoir été retenue captive et était violée par le PDG.
Oui, et cette femme qui tient à conserver l'anonymat total explique qu'il y a un an et demi, un intermédiaire lui a demandé de sous-louer son appartement vacant pour une jeune Marocaine. Elle accepte. La locataire en question, c'est la future plaignante. Elle s'installe dans ce petit 30 mètres carrés du Val-de-Marne à l'est de Paris. En échange, la propriétaire perçoit tous les mois un loyer de 800 euros payé en liquide des mains de la jeune femme. La propriétaire l'assure. Elle n'a jamais rencontré Jacques Boutier. Elle décrit sa locataire comme une personne souvent triste, à qui il arrivait de s'absenter pendant plusieurs jours. Il y a trois mois, la jeune femme l'a appelée pour lui dire qu'elle ne viendrait plus à l'appartement, qu'elle allait déposer plainte contre Boutier, puis disparaître. C'est ce qui s'est passé. Et depuis, la propriétaire n'a plus aucune nouvelle de la jeune femme.
Guillaume Chiez pour RTL. Autre information que nous vous révélons, sept nouvelles plaintes vont être déposées demain contre Buitoni. En tout, une vingtaine de familles ont déjà saisi la justice dans le scandale des contaminations d'enfants. Les soignants ne sont pas les seuls à demander à la nouvelle ministre de la Santé des mesures rapides pour faire face à la pénurie de personnel aux urgences. L'Association des petites villes de France interpelle à son tour Brigitte Bourguignon, comme l'explique son président Christophe Bouillon.
La situation est catastrophique. On connaissait déjà une pénurie, un manque d'attractivité. Ces territoires sont souvent considérés comme de véritables déserts médicaux. Mais là, ça craque de partout. On voit des services fermés, purement et simplement. On voit des directeurs ou des directrices d'hôpitaux s'arracher les cheveux pour trouver des solutions. Et on a des grandes inquiétudes. On a peur que cet été, il n'y ait pas de services d'urgence, par exemple. Vous savez, les hôpitaux dans nos territoires, c'est souvent essentiel parce que on n'a pas forcément de médecin de ville. C'est donc la dernière roue du carrosse. En tout cas, c'est ce à quoi nos territoires s'accrochent. Et donc, il faut vraiment une mobilisation très très forte des pouvoirs publics parce que la situation est vraiment très très critique.
Christophe Bouillon, le président de l'Association des petites villes de France, également maire de Barentin en Seine-Maritime. Il répondait à Odile Pouget pour RTL. Ce n'est pas auprès de ses anciens collègues que Damien Abad, accusé de viol, trouvera du soutien. Hier, le parquet de Paris a fait savoir qu'en l'état, il n'ouvrait pas d'enquête contre le nouveau ministre des Solidarités. Ce qui n'a pas empêché le patron des Républicains, Christian Jacob, d'avoir des mots plutôt durs à l'encontre de Damien Abad ce matin sur RTL, et notamment sur son maintien au gouvernement.
Écoutez, c'est sa décision. Est-ce qu'il est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant, Monsieur Abad ? C'est à lui de prendre cette décision et au gouvernement. Et quand j'entends le gouvernement qui dit qu'ils n'avaient pas d'informations, écoutez, on a envie de se pincer, bien évidemment qu'ils étaient informés. Moi, je connais son comportement sur le plan politique. Croyez-moi, ça mérite débat. C'est assez ignoble comme comportement politique.
Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Vous dites, je connais son comportement politique. Vous pensez que ça peut être la même chose dans sa manière d'être. Je parle
sur ce que je connais, qui est son comportement politique. Ensuite, c'est sa décision. Et c'est celle de la première ministre. Voilà, après, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, je ne compose pas le gouvernement.
Christian Jacob, invité de Benjamin Sportouche sur RTL ce matin, le président des Républicains qui a également annoncé que l'ardoise de Valérie Pécresse après la présidentielle était pratiquement effacée. Ce sont les mots qu'il a employés. Leurs visages défilent sur les réseaux sociaux, sont à la une des journaux, des télés américaines. Et nous sommes tous forcément bouleversés de voir ces 19 enfants qui, pour certains, n'avaient même pas 10 ans. Avant-hier, ils ont été abattus dans leur école primaire au Texas avec deux de leurs enseignantes. Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Uvalde. Les habitants de cette ville sont encore dans la sidération, mais tentent de se rendre utiles comme ils le peuvent.
Oui, c'est le cas de Niva qui est venu avec Henri. Henri est un canis géant tout blanc. Il est ce que l'on appelle un chien thérapeutique. Niva parcourt le voisinage de l'école pour rassurer les enfants comme Pedro qui était choqué par le bruit des ambulances après la fusillade. La propriétaire de Henri restera tant que ce sera nécessaire.
Dans ce genre de situation, il n'y a rien à dire. Et avec un chien, c'est incroyable de voir à quel point ils peuvent réconforter en étant juste là.
Armando, 60 ans, erre dans le quartier de l'école. Il ne sait pas trop comment, mais il veut proposer son aide. Il a les larmes aux yeux. L'école où a lieu le drame, il la connaît très bien.
J'étais scolarisé dans cette école élémentaire. C'est choquant. On peut apporter la nourriture, de l'argent, tout ce qu'on peut faire, on le fera.
Hier, une veillée a eu lieu à Uvalde pour soutenir les familles des victimes. Ça ne soulagera pas leur peine, mais les habitants offrent ce qu'ils peuvent. Le soutien en fait partie.
Lionel Gendron au Texas pour RTL. Dans l'est de l'Ukraine, le nouvel objectif de l'armée russe s'appelle Severodonetsk. D'ailleurs, on assiste un peu au même scénario qu'à Mariupol, une ville plus au sud. Là aussi, de nombreux habitants se sont réfugiés dans une usine. Sauf Sophie Jousselin, qu'il y a un danger supplémentaire cette fois, car beaucoup de produits chimiques se trouvent à l'intérieur.
Oui, parce que l'usine Azot est un complexe chimique. Comme dans l'usine d'Azovstal, les sous-sols sont transformés en abris anti-aériens. Plusieurs centaines d'habitants de la ville s'y sont réfugiés. Pour l'instant, on ne sait pas si des soldats ukrainiens y sont également retranchés, comme c'était le cas à Mariupol. Mais les Russes, selon le gouverneur de la région, bombardent le site dans lequel on produit notamment des engrais, donc des substances hautement inflammables. En cas d'explosion, il pourrait y avoir des dégâts considérables jusqu'à 20 km autour de l'usine. Les informations sont parfois contradictoires, mais il semble que les troupes russes n'encerclent pas encore la ville. Pourtant, c'est leur but, assiéger Severodonetsk, ce qui leur permettrait de finaliser l'occupation complète de la région. Mais d'après les autorités locales, la vie quotidienne devient extrêmement difficile pour les 15 000 habitants qui sont restés dans la ville. Sur les 150 000 qui y vivaient précédemment, il n'y aurait pratiquement plus d'eau et 50% des bâtiments seraient détruits.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Ce matin, le chancelier allemand, depuis le forum économique de Davos, Olaf Scholz, s'est dit convaincu que Vladimir Poutine ne gagnerait pas la guerre en Ukraine. À Roland-Garros, exploit de la Française Léolia Jean-Jean il y a quelques minutes. 227e joueuse mondiale, elle a éliminé Karolina Pliskova, 8e. Elle l'a battue en 2-7, 6-2, 6-2 et ce pour son tout premier grand chelem. On y reviendra tout à l'heure à 13h avec Sébastien Rouxel. Pour la Ligue 1, il n'en restera qu'un. Gros enjeu ce soir avec le barrage aller Auxerre-Saint-Etienne. Les Verts jouent leur maintien et le club bourguignon, lui, pourrait retrouver l'élite 10 ans après l'avoir quitté. Coup d'envoi du match à 19h. On fait une pause et dans quelques instants, on parle de la situation à l'hôpital avec les soignants qui demandent à la ministre de la Santé de se rendre compte de l'urgence de la situation.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Moi, je vais éviter les mots naufrage, catastrophe, etc., qui sont très anxiogènes. Par contre, je ne nie pas la crise, hein, bien sûr. Et nous avons pris pleine conscience de cette crise dès maintenant.
Jehanne Fadlala, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Tout d'abord, je voudrais savoir quelle est votre réaction quand vous entendez la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, dire qu'elle ne veut pas employer de mots trop anxiogènes pour décrire la situation actuelle à l'hôpital.
J'appelle ça de la langue de bois. On est extrêmement déçus par cette première intervention. On avait un espoir fou dans la nouvelle ministre. Elle aime pas employer les mots anxiogènes. En fait, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre quotidien, l'anxiété. Et c'est nous qui sommes en train de porter sur nos épaules les dysfonctionnements multiples de l'hôpital public, en fait. Donc elle veut pas l'entendre, mais en fait, c'est la réalité, c'est notre réalité de tous les jours. Nous, on dort pas la nuit pour porter à bout de bras un hôpital qui est complètement essoufflé. Et c'est grâce à nous que l'hôpital tient encore debout. Donc si elle a pas envie d'écouter anxiogène et naufrage, elle se voile la face. Et ça, c'est un très mauvais commencement.
Ce n'est pas la première fois que les soignants, que vous tirez le signal d'alarme. Est-ce que cette fois, on atteint un point de non-retour? Est-ce qu'on est dans une situation vraiment très très grave?
Je pense qu'en fait, on y est presque. En fait, si vous voulez, nous, on s'attendait que Brigitte Bourguignon nous dise un peu « je vous ai compris ». si vous voulez, et qu'elles nous disent « tout n'est pas foutu ». Comme la planète, on peut encore peut-être tout sauver, mais c'est pas du tout ce qu'elle nous a dit. Or là, il nous faut un homme politique ou une femme politique de l'envergure de Badinter ou de Simone Veil, en fait. C'est ça qu'on demande. C'est plus des PowerPoint, des réunions, des commissions, des concertations. Des... En fait, il faut une refonte drastique. Il ne faut pas qu'elle dorme la nuit, justement. Il faut qu'elle soit anxieuse de ce qui est en train de se passer à l'hôpital. Après, si la décision politique et la volonté politique qui vient d'en haut, hein, pas d'elle, mais du président et de l'Europe, c'est de privatiser l'hôpital public. Il faut qu'ils le disent. Dans ces cas-là, il ne faut pas mentir aux Français. Mais en tout cas, là, ce qui va se passer bientôt, c'est qu'il n'y aura plus d'hôpital public pour les Français. Et donc, il n'y aura plus... les patients vont, s'ils peuvent se faire soigner dans le privé, s'ils ne peuvent pas, mourir dans la rue. Comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde.
Il y aura un système à deux vitesses.
À plusieurs vitesses. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Il y a la fuite des cerveaux. L'hôpital est devenu un broyeur de vocation, si vous voulez. Vous avez vu dans Paris Match, Anne Jouan et Baptiste Giroudon qui ont fait un vrai travail de journaliste d'investigation.
Oui, juste spécifier, dire à nos auditeurs, hein, Jeanne, que vous êtes en une de Paris Match cette semaine.
Oui.
Pour dénoncer aussi, enfin, les salaires qui sont incroyables. Dire quand même que vous avez 37 ans, vous êtes médecin, hein, en CDD, vous gagnez 3484 € net, garde comprise. Alors, peut-être que certains diront, bah, quand même, c'est pas mal par rapport à d'autres Français.
Bien
d'accord. Sylvie, 59 ans, est infirmière, elle est à côté de vous, hein, dans Paris Match. Elle est infirmière de nuit à la PHP depuis 28 ans. Elle gagne 2600 € net par mois, Sylvie, infirmière de nuit.
Bien sûr.
Voilà. Enfin, c'est aberrant. Mais... aberrant.
Alors, il faut qu'on revienne un peu sur les salaires et sur les médecins. Les infirmières, c'est honteux, les aides-soignantes, les secrétaires, les kinés. Enfin, je veux dire, mais ça, ils le savent depuis des années. Il faut que ça change. Mais juste pour vous expliquer sur les jeunes médecins, parce qu'il y a Grégoire aussi, interne en médecine, en fait, notre salaire horaire, le salaire de Grégoire, interne en médecine, qui fait tourner l'hôpital, est de 9 € par heure nette. Le mien est de 14 € par heure nette. Il faut aussi s'imaginer que je gagne 3400 € en travaillant 60 heures par semaine et en ayant la charge mentale que beaucoup de Français ne portent pas. Merci. Et la responsabilité. Donc il faut, évidemment... Et ce Paris Match a été fait en réponse aux propos d'Olivier Véran, qui était notre ministre à l'époque et notre confrère, qui disait que l'hôpital n'était qu'une question de réorganisation et pas du tout une question de moyens. Voilà, monsieur Véran et monsieur Macron, les moyens donnés à l'hôpital public. Je suis en CDD, je ne suis pas que médecin, j'ai un autre doctorat, j'ai fait 16 ans d'études. Je suis un pur produit de la méritocratie française et de l'hôpital public. Rien ne m'empêche d'aller dans le privé et de gagner 20 000 € par mois. Rien. Mais je suis profondément convaincue encore que le système public peut se relever. Et c'est la même chose dans l'éducation nationale, c'est la même chose dans la police. Il serait temps que le gouvernement prenne des décisions à la mesure de l'urgence et du chantier. S'ils ne veulent plus de services publics en France, il faut qu'ils le disent.
Lorsque la ministre de la Santé, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, dit qu'elle veut vraiment miser sur la concertation avec les soignants, vous écouter, dialoguer...
Mais c'est super, mais elle le sait déjà en fait. Je veux dire, Olivier Véran, Agnès Buzyn sont nos confrères, ils savent comment ça se passe. Nous, on pensait justement, de manière très naïve et très ingénue, que peut-être les ministres n'étaient pas au courant de la réalité du terrain, parce qu'il y a tellement de strates entre eux et nous, par l'organisation actuelle de l'hôpital public, qu'on pensait que peut-être ils n'étaient pas au courant, peut-être que le président de la PHP ne remontait pas les informations. Or, ce n'est pas le cas. Ils le savent. La pandémie a permis à tout le monde de voir ce qu'était l'état de l'hôpital public et a permis aussi à tout le monde de voir que l'hôpital public sait s'organiser quand il faut s'organiser en urgence et sait être à la hauteur de la tâche qui lui incombe. En revanche, comme l'a dit François Salakas à Emmanuel Macron au début de la pandémie, nous ne savons pas encore si on peut compter sur lui. Or, jusqu'à maintenant, lui qui doit être notre obligé, ne nous a pas encore montré la hauteur de son engagement. C'est plus qu'un engagement qu'ils font maintenant, c'est fini. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage politique de faire de la tâche qui les attend. Et donc, c'est pour ça que je redis, il nous faut quelqu'un de l'envergure de Charles de Gaulle, de Robert Badinter, de Simone Veil. C'est ces gens-là qu'il nous faut pour reconstruire les services publics en France.
Merci infiniment, Jeanne Fadlala, d'avoir été avec nous, l'invité de RTL Midi sur ce sujet vraiment très très important. Merci encore. Je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On fait une petite pause dans un instant. On parle d'un tout autre sujet qui vous intéresse également, je le sais, concernant l'arrêt peut-être éventuel, hein, c'est pas sûr, mais c'est une idée qui est lancée par Gérald Darmanin sur le retrait de points pour les petits excès de vitesse. Peut-être bientôt la fin de ce retrait.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Ben c'est bien. Enfin, le mieux, c'est de ne plus faire tomber le point du tout. Comme ça, on est tranquille. Ils nous enlèvent beaucoup pour rien, quoi.
On va peut-être arrêter les démarches administratives pour rien. On va essayer de faire des petites économies.
C'est toujours bon à prendre. Hein. On peut gratter encore quelques kilomètres pour accélérer. Mais bon, il faut faire attention.
Eh oui, c'est toujours bon à prendre. Plutôt favorable, hein, les avis. Concernant la réflexion qui est en cours pour arrêter la suppression de points pour les petits excès de vitesse. Bonjour, maître Vincent Jullet-Parade.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. Peut-on parler de petits excès de vitesse ? Y a-t-il des petits excès de vitesse ?
Alors, il y a des petits excès de vitesse, mais avant tout, il y a des excès. Et il y a une règle qui est fixée pour la sécurité de tous. Et donc, dès l'instant où on va commencer à négocier avec les petits excès, ça veut dire qu'on accepte de négocier avec la règle et donc avec les plus grands, et que forcément, on reviendra à un système que la France a connu durant près de 40 ans avant 2002, et au cours durant lequel la France était le mauvais élève de l'Europe en matière de sécurité routière. Donc, je pense que faire le pari électoral de jouer avec la règle sur la route, c'est aussi faire le pari de jouer avec la vie.
C'est vraiment une mesure électoraliste pour vous ?
Bah, le timing de M. Darmanin ne peut être qu'électoraliste. On a un gouvernement qui peut-être est de transition, qui vient d'être nommé. On est à 15 jours des élections législatives où il y a un véritable enjeu. Je pense que cette mesure, cette réflexion annoncée n'est là que pour venir tenter de séduire un électorat, il est vrai, hein, de conducteurs pas contents et qui a eu des échos chez d'autres, dans d'autres bords politiques. Donc je pense véritablement qu'on est dans un débat qui est lancé, qu'un débat dangereux et encore une fois, on prend le risque de jouer avec des vies qu'on peut sauver sur les routes.
Est-ce que, quand je vous parle de petits excès, est-ce que 5 km/h peut avoir un impact justement sur le nombre d'accidents ?
Alors, c'est pas 5 km/h, parce que déjà actuellement, il faut, si on veut vraiment être honnête, il faut déjà reconnaître qu'il y a une tolérance de 5%, qui est une tolérance technique. Ça veut dire que demain, on va blanchir des excès jusqu'à 60 km/h en ville, par exemple. Et 10 km/h en ville, c'est de précieux mètres pour éviter l'enfant qui va traverser, la vieille dame. Et ça aussi, voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la tolérance, elle existe sur le plan technique. On a toujours la vitesse contrôlée, la vitesse retenue. Ce que l'on promet aux gens, c'est quelque part de les amnistier, si je puis me permettre, vu qu'on est un peu électoral, d'excès qui seront beaucoup plus importants. Voilà. Donc, si vous voulez, encore une fois, je ne vois pas pourquoi la route serait le seul endroit de la société où on accepterait de discuter avec la règle qui est là pour le bien commun.
Mais quand même, maître, on garde l'amende qui peut aller jusqu'à 135 euros.
Oui, alors, si vous voulez, après, malheureusement, je pense que M. Darmanin a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que, pour faire plaisir aux associations automobilistes, il lance cette idée de réfléchir sur la suppression du retrait de points. Et dans la foulée, on a les associations d'automobilistes qui ont dit « Oui, mais c'est pas suffisant, faut aussi supprimer l'amende. » Et en fait, ce à quoi on risque d'arriver, c'est simplement créer une tolérance du petit excès de vitesse. Et quelque part, bah, après, on ne pourra que repousser la limite un peu plus loin. Et on reviendra, je le dis, au système d'avant 2002, où il y avait une règle, et puis il y avait une application qui était tout autre, et puis on avait 10 000 morts sur les routes en France.
Vous qui êtes spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route, alors pour l'instant, cette mesure, ce n'est qu'une piste de réflexion. Où en sommes-nous aujourd'hui en France? Où en est l'exécutif concernant la prévention routière?
Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la prévention. Je pense que la sécurité routière a connu ses heures de gloire entre 2002 et on va dire 2010, hein, et qu'après c'est un sujet qui est tombé en désuétude. On a encore de vrais gains à avoir sur les routes. On peut encore sauver de nombreuses vies chaque année. On peut encore éviter de nombreux handicaps qui sont insupportables. Ça suppose en effet, hein, qu'on réfléchisse à comment mieux prévenir, mieux former également, mieux sécuriser les infrastructures. Il y a aussi un vrai débat là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que le pilier de ce qui a fait de la sécurité routière la plus grande réussite en matière de santé publique depuis l'après-guerre, c'est-à-dire de passer de 8500 morts en 2002 à aujourd'hui 3004, ça a été avant tout de travailler sur le respect de la règle. Remettre ça en cause, c'est risquer de remettre en cause tout ce qui a constitué l'équilibre de cette politique. Et je pense véritablement qu'il y a un vrai danger. Donc oui, travaillons à une meilleure prévention. Oui, travaillons aussi sur des causes telles que l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool n'est pas encore assez contrôlé, n'est pas assez réprimé. Travaillons aussi sur les nouvelles causes d'accidents, notamment les nouvelles technologies embarquées avec l'usage du téléphone. Mais ne pensons pas que la vitesse ne doit plus être contrôlée, sanctionnée, et que c'est un combat acquis. Je pense que si on fait ce pari-là, si M. Darmanin, Mme Borne et M. Macron font ce pari-là, ils vont s'exposer à une augmentation du nombre de tués et ils en auront l'entière responsabilité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans RTL Midi, Maître Vincent Jullet-Parade. Je rappelle vous êtes avocat et spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. Merci à vous. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, évidemment, pour les auditeurs ont la parole, bien évidemment. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez vous exprimer sur un sujet, n'importe lequel, vous le savez, c'est à vous de jouer maintenant au 3210.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.